Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère aujourd'hui ?
Très bien, merci, bonjour à tous, bonjour Olivier.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse, comme vous le savez, à votre vécu. Pour qu'il y ait une fratrie, il faut bien qu'il y ait un premier. Être l'aîné, c'est avoir une place particulière. On voit naître un ou plusieurs frères et sœurs. On peut être une référence ou agacé, être un parent de substitution parfois. Une place qui n'est pas toujours facile, mais qui peut avoir ses avantages. Apprendre à négocier, devenir l'exemple, devenir le plus responsable. Comment le vit-on ? Est-ce qu'on éduque son premier enfant de la même manière que les suivants ? Être l'aîné d'une fratrie, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Le standard d'Europe 1 est ouvert 39 21 50 centimes la minute. Vous pouvez nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Mélissa sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 27 ans, j'appelle de Dole dans le Jura.
D'accord. Alors Mélissa, vous êtes l'aînée et vous avez 4 et 6 ans de différence avec vos frères. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque le premier est né ?
Moi j'étais très heureuse.
Ouais.
Donc d'avoir un petit frère. Donc après j'ai pas de souvenirs vraiment. J'étais quand même jeune, donc je me rappelle pas particulièrement. Mais je sais que j'étais très heureuse d'être grande sœur.
Mmh. Et vos parents travaillaient beaucoup, hein, je crois. Vous dites que vous avez eu très rapidement un rôle d'adulte en tant qu'aîné. Que faisaient-ils vos parents en fait ?
Alors mes parents, ils avaient leur propre magasin de vente de cuisine.
Oui.
Donc voilà, ils étaient. Du coup, mon papa était artisan et c'est vrai qu'ils géraient leur magasin. Donc oui, ils travaillaient énormément puisque les rendez-vous clientèle pouvaient se faire tard aussi en fin de journée.
Oui.
Voilà, et en plus, le travail était à peu près une heure de route de la maison. Donc,
au final, c'est vous qui vous êtes mis à vous occuper de vos petits frères.
Oui.
Et alors, de quelle manière ?
Oui, en début d'adolescence, oui. Il fallait que je m'occupe d'eux donc après l'école pour le goûter, les devoirs, faire un peu le ménage à la maison. Les faire manger aussi, parfois ça m'arrivait.
Oui.
Faire leurs devoirs, tout. Hein. Donc, je gérais tout à la maison avec eux, en fait.
Ouais. Est-ce que ça vous paraissait comme étant une évidence pour vous de vous occuper d'eux comme ça ?
Au début, peut-être pas trop. Mais après, j'ai pris mon rôle à cœur et j'étais fière. Et je trouvais que c'était agréable de m'occuper d'eux. Et pour moi, c'était normal, oui. Et c'est moi qui m'occupe d'eux et pas une nounou, en fait.
Et comment ils vous le rendaient comment ils vous regardaient, ces petits frères ?
Ah bah, eux, c'était compliqué parce que j'étais pas la maman, justement. Donc, ouais. J'étais que la sœur. Donc, du coup, forcément, ça se passait pas forcément bien parce qu'ils m'écoutaient pas. Souvent, c'était justement « t'es pas maman ».
Oui.
Donc voilà, eux ils m'écoutaient pas, ils étaient trop jeunes pour comprendre qu'en fait je les aidais et que j'étais pas là pour les embêter.
Oui, puisque vous
ils me faisaient un peu la misère.
Oui, vous vous retrouviez être une maman de substitution jusqu'à, je suppose, 20h, 20h30, le temps que vos parents arrivaient.
Oui.
Est-ce que ça crée chez vous de la frustration, justement, ce rapport où voilà, ils contestaient votre autorité par moment ?
Oui, des fois j'étais vraiment en colère contre eux qu'ils m'écoutent pas et qu'ils me fassent la misère comme ça, parce que moi je me disais que j'étais là pour les aider, que je m'occupais bien d'eux. Après, oui, sur le coup, c'est vrai qu'on est frustré à l'âge que j'avais, je comprenais pas qu'ils soient en colère contre moi ou qu'ils veuillent vraiment pas obéir. Pour que tout se passe bien, en fait.
Ouais.
Ils faisaient pas en sorte que tout se passe bien. Donc,
Et dans ce contexte-là, est-ce que vous aviez un peu de temps pour vous ? Parce que vous étiez jeune, vous aussi.
Oui, bah non, j'avais pas vraiment de temps pour moi, du coup, non. Mmh. J'ai pas du tout, aller voir des amis, tout ça, c'était très très rare.
Mmh. Vous aviez quand même quelqu'un à qui vous parliez, une épaule sur laquelle vous reposez ? Est-ce que de temps en temps, vous en parliez à votre mère ou à votre père, du fait que justement, vous, ça faisait que vous n'aviez pas trop de vie d'adolescente, finalement ?
Oui, après, à mes parents, j'en parlais pas forcément, mais j'avais ma grand-mère qui était très présente puisqu'elle habitait en face de chez nous.
Mmh.
Donc souvent je me reposais sur elle et puis quand ça allait pas je l'appelais pour qu'elle vienne gérer la situation avec mes frères. Quand j'arrivais vraiment plus à gérer toute seule, je savais qu'elle était là en fait.
Mmh. Vous avez l'impression aujourd'hui que vos parents se rendaient compte à l'époque ou Est-ce qu'il culpabilisait de cette situation ou finalement c'était, voilà, c'était comme ça, eux travaillaient et vous deviez vous occuper de vos frères et c'était normal?
On n'en a jamais vraiment parlé, mais je pense que pour eux c'était normal parce que justement ils vivaient bien la situation. Donc je pense que pour eux c'était normal que je m'occupe de mes frères et puis ils voyaient que ça se passait quand même relativement bien parce que moi j'étais contente.
Oui.
Donc après, je pense qu'ils se sont dit si elle se plaint pas, c'est que ça va.
Restez en ligne avec nous, Mélissa. Nous allons continuer à parler de votre histoire et voir combien cela a été difficile de couper le cordon avec vos frères ensuite quand vous êtes parti faire vos études. Et puis, je voudrais savoir aussi quelle jeune fille ça a fait de vous de vous occuper si tôt de jeunes enfants. On s'en parle tout de suite.
Vous êtes l'aîné de votre fratrie. Vous avez toujours dû montrer l'exemple, être le plus responsable, celui vers qui les parents se tournaient pour demander des comptes. 39-21 pour nous appeler. Vous racontez votre histoire, votre expérience personnelle à Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Mélissa qui nous expliquait avoir été contrainte très jeune de s'occuper de ses frères avec des différences d'âge de 4 ans et 6 ans, simplement parce que ses parents travaillaient beaucoup. Mélissa, vous dites que cela a été un déchirement lorsque vous êtes partie faire vos études. Vous aviez l'impression de quitter vos propres enfants à ce moment-là?
Oui, surtout au niveau du plus jeune.
Oui.
Parce que le plus grand a été quand même assez... était plus distant que le plus jeune avec moi. Donc c'est vrai que oui, j'ai eu un gros déchirement. J'avais l'impression de le laisser à lui-même. Enfin, c'était compliqué, oui. J'avais l'impression un peu de l'abandonner, de le laisser tout seul.
Vous avez l'impression que du fait de vous être occupé de vos frères très vite comme ça, cela vous a fait grandir plus vite et a fait de vous une adolescente plus responsable que vos copines, par exemple?
Ah oui, 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 très... J'ai tout de suite été très mature et très responsable dans la vie puisque je devais m'occuper de la maison. Donc c'est sûr que moi je sortais pas, ouais. J'allais pas par exemple comme les copines en boîte. J'avais vraiment des valeurs qui n'étaient pas de mon âge, ouais. On va dire.
Et comme ça avec du recul, est-ce que aujourd'hui vous dites que ça a été un peu trop vite tout ça? Est-ce que vous êtes devenue une jeune adulte plus vite que les autres et que finalement ça a été trop vite?
Oui, après, c'est vrai que ça a été vite, puisque du coup, même encore aujourd'hui, j'ai des amis qui me disent que j'ai des principes ou des valeurs qui sont pas de mon âge, je suis un peu stricte, j'ai toujours un peu cette maturité plus élevée que ouais. D'autres personnes de mon âge. Mm-hmm. Donc du coup, je pense que tout vient du fait que j'ai grandi trop vite en m'occupant de mes frères, en fait.
Oui, parce que les répercussions que cela a eu sur vous, c'est que votre cercle d'amis est plutôt restreint aujourd'hui. Vous pensez vraiment que c'est lié à tout cela?
Oui, oui, c'est sûr et certain, puisque justement, vu que je ne sortais pas, je n'ai pas pu me créer de cercle d'amis important.
Oui.
Et puis surtout, j'ai toujours été rejetée, en fait, aussi, parce que j'avais justement ces idées je ne comprends pas pourquoi tu bois, je ne comprends pas l'intérêt d'aller en boîte. Enfin, moi, en fait, j'étais plus casanière à la maison, à faire les choses, des choses d'adultes, finalement.
Oui,
voilà.
Oui.
Du coup, oui, vu que je parlais comme ça, on va dire que j'étais souvent rejetée. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment un cercle d'amis important. J'ai deux très bonnes amies.
Oui.
Et voilà, c'est tout.
Est-ce que vous en avez voulu à vos parents de vous avoir laissé autant d'autonomie avec vos frères?
Je pense qu'il y a forcément eu une période où je leur en voulais un peu.
Oui.
Mais après, j'étais vraiment heureuse dans mon rôle parce que j'aimais beaucoup, beaucoup mes frères. Donc, il n'y avait pas de souci. Et aujourd'hui, je leur en veux pas du tout, justement, parce que je me dis que je suis autonome.
Oui.
Voilà, je suis quelqu'un de mature qui a pu avoir un appartement très tôt. Voilà, donc je pense que je les remercie finalement de m'avoir laissé ce rôle-là, puisque aujourd'hui, même si j'ai pas beaucoup d'amis, même si j'ai pas fait la fête,
ouais.
Je suis heureuse, je suis mature, je suis quelqu'un de posé et voilà.
Mmh. Vos relations sont bonnes donc aujourd'hui avec vos parents?
Ah oui, 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 très bonnes.
Est-ce que être l'aîné d'une fratrie, c'est selon vous une chance ou pas alors?
Je dirais pas une chance quand même, parce que moi j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un au-dessus de moi. Qui soit vraiment là pour m'aider, parce que finalement, nous, on n'a pas quelqu'un qui vient nous protéger, qui vient une épaule sur qui pleurer si ça ne va pas. Donc, je pense que Pour moi, c'est une chance dans le sens où, oui, on a un rôle important dans la vie de nos frères et sœurs. Mais
Ouais.
après, voilà, nous, on n'a pas de protecteur, quoi. Voilà.
Est-ce
On n'a
que,
pas.
est-ce qu'à votre avis, ça fera de vous une maman particulière, d'avoir eu ce rôle d'aînée et ce rôle de vous occuper beaucoup de vos frères?
Oui, je pense que j'aurais. Pour moi, j'ai déjà vécu le rôle de maman, en fait.
D'accord.
Donc, je me dis que je saurais gérer les situations, je saurais comment faire avec mon enfant. Par rapport à tout ce que j'ai vécu avec mes frères, ça m'a beaucoup appris, en fait. Donc, je pense que je serais moins stressée le jour où je vais devenir maman. Je serais peut-être pas autant stressée qu'une
Oui.
maman qui s'est jamais occupée justement d'enfants avant.
Merci beaucoup, Mélissa, pour votre appel et votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Dans quelques instants, nous accueillerons le docteur Marc Snadger. Il est pédiatre et auteur de l'ouvrage Les aînés et les cadets.
Europe 1.
Vous êtes l'aîné. Est-ce que le rang dans votre fratrie a conditionné votre destinée? Vous racontez votre histoire à Olivier Delacroix au 3921.
Et pour en parler, nous sommes maintenant en ligne avec le docteur Marc Snadger, pédiatre et auteur de l'ouvrage Les aînés et les cadets aux éditions Odile Jacob. Bonjour docteur et merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Bonjour. Alors docteur, vous dites une chose en préambule de votre ouvrage. En tant que pédiatre, vous constatez que les enfants que vous voyez dans votre cabinet présentent très souvent des traits de caractère particuliers selon le rang de naissance. Que constatez-vous chez les aînés?
Alors, ce que je constate chez les aînés, c'est, comme d'ailleurs chez les cadets ou les benjamins, c'est des traits de caractère souvent communs. À travers le témoignage de Mélissa, je pense qu'on a effectivement passé en revue un certain nombre de critères qui peuvent définir ce caractère, même si le cas de Mélissa est peut-être un petit peu extrême et pas généralisable à toutes les situations. En tout cas, je rappellerai quelques fondamentaux, puisque l'aîné, c'est quand même celui qui fonde la famille, en quelque sorte, hein. Et ça, c'est quand même quelque chose de majeur. Donc, il a souvent sur les épaules un peu le poids des attentes et des mandats familiaux. Et ça, c'est une responsabilité qui peut être très lourde, ce qui est un peu moins le cas des enfants suivants. Donc, ça donne à cet aîné un sens des responsabilités plus ou moins conscient qui va affecter tout son comportement. Alors, effectivement, très jeune, Mélissa s'est retrouvée parentalisée. Peut-être aussi parce qu'il y a quand même un certain écart d'âge entre elle et ses frères.
4 et 6 ans, oui.
Oui. Donc, à partir de là, on est moins dans la rivalité fraternelle que dans le sens des responsabilités, parce que les relations fraternelles sont quand même empreintes d'une certaine ambivalence entre la complicité, la rivalité, le sens des responsabilités. Donc, l'aîné, bien souvent, quand il y a un écart d'âge, n'est pas spécialement jaloux, mais prend en charge, alors là, de façon plus ou moins marquée, et là, c'est important, évidemment, chez Mélissa, prend en charge les enfants suivants.
Alors, certaines personnes, pour plaisanter, disent que l'aîné est le brouillon et que les parents sont bien plus à l'aise avec le second et puis ceux qui suivent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Et est-ce que est-ce que l'aîné peut ressentir ça, justement?
Oui, alors le brouillon, c'est pas très gentil comme formule.
Non.
Au contraire, alors moi, on peut dire ça. On peut dire que, pour aller dans ce sens, que moi, j'avais failli donner pour titre à mon livre, il faudrait toujours commencer par le deuxième, parce que ça, c'est avec un point d'interrogation quand même, parce que c'était une passionne qui m'avait dit, mais c'est tellement plus facile avec le deuxième alors qu'on en a bavé avec le premier, qu'on aimerait commencer par le deuxième. Bon, ça, c'est une chose, mais souvent, les parents sont tellement impressionnés par l'aîné, parce que, encore une fois, c'est ce qui les confronte avec la parentalité, c'est ce qu'ils font de la famille, comme on le disait, qu'ils ont du mal à s'en remettre et que les enfants suivants sont jamais aussi bien dans leur esprit. Bon. Donc là, on peut dire un peu, on peut dire pas mal de choses là-dessus.
Est-ce que il y a des différences de traits de caractère vraiment marquants entre un aîné garçon et une aînée fille?
Alors, suivant les milieux plus ou moins traditionnels où on évolue, il y a forcément des différences. Mais je trouve que ces écarts de caractère entre aîné, cadet et benjamin sont un peu transversaux au sexe. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même ce caractère de responsabilité, d'introversion chez les aînés, garçons ou filles, J'ajoute que d'après les statistiques, c'est souvent eux qui font les études les plus longues finalement,
ouais.
des parcours académiques les plus longs,
mm-hmm.
alors mais un peu peut-être sous le poids de l'attente familiale, alors que les enfants suivants vont se réaliser de manière plus conforme à leur propre désir,
mmh.
moins dans l'attente des parents.
On parle beaucoup des cadets également en disant que c'est une place difficile. Pourquoi cela ?
Alors, les cadets, ils sont pris en sandwich,
ouais.
tout simplement, surtout quand ils deviennent enfants du milieu. C'est surtout là la difficulté.
Tout dépend de ce que l'aîné fait, hein, ceci dit, hein, comment il réussit ou pas le passage.
Oui, certainement, mais en tout cas, sur des études un petit peu quantitatives, on voit que l'aîné a une estime de soi qui, le cadet
oui.
a une estime de soi qui, en moyenne, est un petit peu inférieure à celle de l'aîné, bon, qui a été choyé, très entouré, très soutenu. Et puis le petit dernier, qui lui, alors c'est le bouffon de la famille, surtout s'il vient assez longtemps après les deux premiers,
mmh.
ou un peu c'est le bout en train, il n'a aucune pression, les parents sont très émus de se retrouver encore parents à un âge plus avancé. Et celui du milieu, finalement, il empathie un petit peu.
Mmh.
Donc c'est dans ce sens-là que c'est peut-être pas la solution la plus facile. Quand
ouais,
ce cadet se
place.
Retrouve enfant du milieu. Quand mmh. il se retrouve enfant du milieu.
Comment préparer son premier enfant à l'arrivée du second ? Est-ce qu'il faut vraiment la préparer, cette arrivée ?
Alors, en général, déjà, ce qui est très frappant, c'est qu'avant même qu'on ait annoncé à la famille que la maman est enceinte, l'aîné a perçu déjà quelque chose et a changé de comportement.
Oui.
Donc ça, c'est moi quelque chose qui me frappe et que je retrouve très souvent. Donc, il y a instinctivement la révélation implicite que le rival est en train d'arriver, si je puis dire. Donc, il faut lui en parler. Bon, on n'est pas obligé de le saouler toute la journée avec ça, mais il faut quand même lui annoncer que bientôt il ne sera plus seul enfant. Et souvent, en fait, il y a une espèce d'angoisse parce que cet aîné ne sait pas trop à quoi s'attendre, qui finalement se métabolise quand le suivant arrive et qui se transforme plutôt en émotion. Alors, quand il y a peu d'écart d'âge, disons moins de 2 ans, entre l'aîné et le cadet, là, il y a beaucoup de jalousie.
Oui.
Ça se sent, quoi. Ça se sent. Alors, ce n'est pas verbalisé tellement pour des raisons d'âge, mais il y a des comportements un peu agressifs, des comportements d'opposition, enfin, on voit des choses comme ça.
Mm-hmm.
Par la suite, bon, on retrouvera quand même toujours ce sentiment de jalousie de manière un peu implicite, mais avec une complicité, parce qu'ils sont proches en âge. Quand l'écart d'âge est plus important, il me semble qu'il y a moins de rivalité, il y a moins de jalousie.
Moi, ce que je peux vous dire, hein, c'est que je peux prendre mon propre exemple. J'ai 10 ans d'écart avec mon frère et je n'ai jamais ressenti la moindre jalousie vis-à-vis de mon frère. Alors qu'il est vrai que j'ai constaté que lorsqu'il y avait 1 an, voire 2 ans de différence entre un frère et une sœur ou 2 frères ou 2 sœurs, il est vrai que l'aîné manifestait généralement, de manière pratiquement systématique, ce sentiment de jalousie dont vous parlez. Vous restez avec nous en ligne, Marc Snadger. Je rappelle que vous êtes pédiatre et auteur de l'ouvrage « Les aînés et les cadets ». Dans quelques instants, nous allons accueillir Evelyne. Elle a beaucoup appréhendé la naissance de son deuxième enfant, ayant peur que la relation avec sa première fille change.
Et Charlotte a 33 ans et témoigne au 39-21. J'ai 2 petits frères, 2 frères et 1 sœur plus jeune. Je me suis fait beaucoup de soucis à l'adolescence pour eux lorsqu'ils sortaient le soir. Par exemple, j'ai toujours été comme une seconde mère et ils ont donc toujours pris l'habitude de me prévenir jamais. Ils me laissaient sans nouvelles pour me rassurer comme ils le faisaient pour maman.
Ça, c'est plutôt bien.
Hein. Ben oui, c'est pas mal.
Europe 1.
Vous êtes l'aîné de votre fratrie. Est-ce, selon vous, une place particulière ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Est-ce qu'être l'aîné est une place à part dans une fratrie ? L'avez-vous toujours bien vécu ? Vous nous racontez votre expérience au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Evelyne. Bonjour Evelyne, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Evelyne ?
Alors, j'ai 38 ans et j'appelle de Paris.
D'accord. Alors, vous êtes la maman de 2 filles. Quel âge ont vos 2 filles aujourd'hui ?
Alors, ma plus jeune a 5 ans et ma grande va avoir bientôt 8 ans.
D'accord. Alors, vous dites que lorsque votre deuxième fille est apparue à la maternité après la naissance de sa petite sœur, vous ne l'avez pas reconnue. C'est-à-dire, expliquez-moi ça.
Alors en fait, elle est arrivée donc à la maternité avec son papa et quand elle est rentrée dans la pièce, j'ai eu une sensation vraiment très étrange. J'ai eu l'impression qu'elle était d'un coup plus grande et oui. différente. Et elle avait, bizarrement, elle n'avait plus l'aspect de bébé que je lui connaissais. Oui. Elle était devenue grande, peut-être du fait du contact que j'avais avec sa sœur qui était maintenant, enfin qui était vraiment tout récent et qui était vraiment le nourrisson. Voilà, donc ça, ça m'a fait un petit peu
un choc,
enfin une drôle de sensation. Voilà, un choc.
Surtout que vous étiez très proche hein, de votre première fille.
Oui, on peut dire qu'on avait une relation très très fusionnelle.
Alors, vous dites qu'il y a eu, qu'il y avait quelque chose de comme si c'était cassé entre votre première et vous, lorsque vous avez eu votre deuxième. Qu'entendez-vous par là ?
J'ai eu l'impression, alors déjà j'ai eu l'impression de trahir ma première fille, comme si je
trahir.
Faisais une sorte d'infidélité. Oui,
c'est fort hein, comme mot ça.
Oui, c'est assez fort, mais c'est un petit peu ce que j'avais l'impression, de, enfin ce que je ressentais à ce moment-là. Il y avait une sorte peut-être de culpabilité vraiment très très ancrée en moi. Et oui, j'ai eu un petit peu l'impression de la trahir d'une certaine manière. Et puis, j'arrivais plus à retrouver la relation fusionnelle que nous avions en fait.
Ouais. Mais est-ce que est-ce que ce sentiment de trahison, en fait, il se dégageait de la tendresse, de l'amour que vous ameniez à ce nourrisson et tout à coup, vous aviez l'impression d'enlever à votre aîné quelque chose ?
Ben, en fait, oui, peut-être que j'avais l'impression de ne pas savoir. Enfin, je me projetais vers l'avenir et j'avais la peur de ne pas savoir partager mon amour, en fin de compte. Mmh. Comme si j'avais une dose d'amour et que je devais la partager entre deux enfants. Alors qu'en dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe.
Dans
en
la réalité, ça se fait naturellement.
Voilà, l'amour, il se duplique, en fin de compte. Il se multiplie. On n'a pas à le partager, en fin de compte.
L'amour, il est tout naturel. Il vient tout naturellement.
Voilà.
C'est un sentiment des plus naturels. Vous appréhendiez, hein, lorsque vous étiez enceinte, la rencontre entre vos deux enfants aussi.
Oui.
C'est-à-dire...
C'est pareil, j'appréhendais pas mal la naissance de ma seconde fille parce que j'avais justement cette impression de trahison envers la première,
ouais.
Alors qu'elle était en plus demandeuse d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc de ce côté-là, pourtant, je ne pouvais pas la décevoir. Mais voilà, je pense que c'est ça, ça revient à cette histoire d'amour que je n'arrivais pas à envisager de partager en fait, entre les deux. Voilà.
Vous appréhendiez, oui. Est-ce que vous pensez à ce moment-là leur avoir transmis votre appréhension, vos craintes à vos filles ?
Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, j'essayais justement de cacher ce genre de choses et de garder vraiment ça pour moi. Et en contrepartie, j'essayais vraiment de mettre en œuvre des actions qui faisaient que l'amour ne pouvait que se développer, en fin de compte. Là, par exemple, la première, je l'impliquais pas mal dans ma vie quotidienne avec le bébé.
Ouais.
Et d'ailleurs, même au moment de la venue de sa petite sœur, on lui a même demandé de choisir un bébé pour sa petite sœur. Voilà, il y avait une sorte de responsabilité de son côté qui lui permettait, en fin de compte, d'avoir une relation dans la vie de famille, en fait.
Mais dans ce type de schéma, lorsqu'il y a déjà un enfant et puis qu'un second arrive 2-3 ans, et même voire un peu plus, il y a de temps en temps, hein, même souvent, hein, j'ai entendu des couples d'amis en parler, une certaine jalousie de la part de l'aîné par rapport au petit ou à la petite dernière qui arrive. Est-ce que vous avez ressenti une forme de jalousie directement ?
Eh bien, non, pas, en tout cas pas dans les premières années. En fin de compte, c'est venu un petit peu plus tardivement. Mais au tout début, enfin, on va dire la première année, en tout cas, ma grande était vraiment heureuse d'avoir une petite sœur et elle ne montrait absolument aucune jalousie. Voilà.
On va justement continuer à parler de votre histoire et voir quand. Ce sentiment-là est arrivé, hein, cette différence entre l'aînée et la petite dernière. Vous restez en ligne avec nous, Evelyne. Nous accueillerons aussi Elliot, qui a presque 17 ans. Il est très proche de sa petite sœur et aime dire qu'il est protecteur avec elle. Mais ça sera pour tout à l'heure. On se reparle tout de suite.
Europe 1.
Dans votre fratrie, est-ce que ça change quelque chose d'être l'aînée ou au contraire, chez vous, aînée qui a des benjamins, ça ne fait aucune différence. Vous échangez avec nous, vous nous racontez votre expérience au 39-21.
Est-ce que tu veux bien être mon grand frère ? m'aider à porter mes chagrins.
Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, vous composez le 39-21. On se demande cet après-midi si la place de l'aîné dans une fratrie est plus difficile à tenir.
Nous sommes toujours en ligne avec Evelyne, mère de deux filles, qui nous expliquait donc que lorsque votre petite dernière est arrivée, votre fille aînée n'avait pas du tout eu un sentiment d'être mise à l'écart ou un sentiment de jalousie et que ce sentiment il était arrivé après. Mais combien de temps après alors ?
Je pense que c'est arrivé à partir du moment où sa petite sœur a commencé à vraiment s'exprimer en fin de compte. On va dire que tant que sa sœur était à l'état de nourrisson ou même bébé, voilà, tout se passait très bien. Et puis au bout d'un moment, je pense vers les 2 ans de ma plus petite, Emma, ma grande, a commencé à se montrer assez dure finalement envers sa petite sœur et lui rappelant régulièrement qu'elle n'était qu'un bébé et qu'en gros elle n'avait pas son mot à dire.
Et est-ce que ça va mieux aujourd'hui ça ?
Oui, alors aujourd'hui on peut dire que toutes les deux elles sont très très complices. Mmh. Bon, il y a toujours des petites chamailleries, mais bon, qui sont totalement normales quand on est entre frères et sœurs. Mais aujourd'hui, voilà, leur relation a complètement changé. Bon, maintenant, elles sont toutes les deux en âge de discuter entre elles, de papoter, de se créer des petits secrets. Et tout se passe bien aujourd'hui.
Et elles sont en âge de se liguer contre vous même. Je suppose qu'elles font alliance contre maman aujourd'hui.
Exactement.
Docteur Marc Snadjer, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes pédiatre et auteur de l'ouvrage « Les aînés et les cadets ». Comment ne pas culpabiliser à la naissance de son second enfant, avoir une relation juste et normale, quand on vient d'écouter le témoignage d'Evelyne ?
Comment ne pas culpabiliser ? Il suffit de se dire qu'on n'est pas en train de faire un enfant dans le dos à son aîné en faisant un deuxième. Mais que tout simplement, la famille s'agrandit de manière naturelle. Donc, alors évidemment, ça dépend de la manière dont on a investi le premier, qui, avec évidemment les avantages et les défauts de la situation, c'est-à-dire que le premier est forcément sur un piédestal, c'est le centre du monde, il attire toutes les attentions. Donc, pour la maman, quand elle... elle doit finalement annoncer à son aîné qu'il y a un suivant et un rival qui arrive. C'est compliqué. Mmh. C'est compliqué parce que ça veut dire qu'elle va s'intéresser à quelqu'un d'autre que lui. Ça veut dire qu'elle a des relations aussi avec un autre homme, dont son mari, qui n'est pas l'aîné. Ouais. Donc ça fait pas mal de choses inconsciemment. Mmh. Et pourtant, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir.
Alors justement, on va en parler avec un aîné, puisque nous allons maintenant accueillir sur l'antenne d'Europe 1 Elliot. Bonjour Elliot.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Elliot, vous avez 17 ans, vous nous appelez d'Irlande, vous faites vos études et vous avez une petite sœur de 10 ans. Quel souvenir avez-vous de la naissance de cette petite sœur ?
Moi, ça s'est très bien passé parce que déjà, je vous en ai parlé d'histoire de concurrence, etc. Mais c'est un peu différent parce que moi, je suis un garçon et elle, c'était une fille.
Oui.
Donc, j'étais pas trop dans cet aspect-là. Et du coup, j'étais plus content d'avoir une petite sœur. Voilà, j'étais vraiment très content. Et quand ma mère me l'avait annoncé, ça s'était super bien passé. Pas de soucis. Après, en grandissant, certes, un petit peu, il y a eu des petites embrouilles, mais sinon, ça s'est très bien passé.
Parce que finalement, il y avait 7 ans de différence avec elle, hein, si je compte bien. Lorsque vous écoutez, vous entendiez le docteur Marc Snadjer tout à l'heure parler de plus cette différence est grande, mieux ça se passe. Vous êtes plutôt d'accord avec ça ? Ça a joué pour vous ?
Oui, je suis plutôt d'accord parce que on passe par des phases où on a vraiment énormément d'écart, c'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble dans l'enfance, ensemble à l'adolescence, donc il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est-à-dire que là, ma sœur, elle va rentrer l'année prochaine au collège. Moi, le collège, c'était à 6 ans.
Ouais.
Donc, j'ai plus envie de l'aider que d'avoir de la concurrence avec elle.
Mmh. Quelle relation vous avez tous les deux ? Parce que je suppose que cette petite sœur, elle vous regarde un peu comme le héros. Hein, parce que moi, j'en ai une de 14 ans à la maison qui regarde son frère de 25 ans aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle le regarde toujours avec des grands yeux admiratifs. Est-ce que c'est la même chose avec votre petite sœur ?
Pas vraiment. Moi, c'est pas vraiment le cas. Non, parce qu'on s'entend très bien et il n'y a pas vraiment de... Voilà, elle ne me voit pas vraiment comme le héros parce que il n'y a pas cette relation-là. Mais après, comme je vous l'ai dit, j'habite en Irlande, elle habite en France.
Ouais.
Du coup, cette distance fait que quand on se retrouve, on s'entend toujours mieux et on est toujours plus... enfin, elle est toujours très contente de me revoir.
Mmh. Elliot, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de la relation que vous entretenez donc avec votre jeune sœur. J'en profite aussi pour remercier Evelyne d'avoir pris le temps de nous raconter son histoire sur l'antenne d'Europe 1. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Vous êtes l'aîné de vos frères et sœurs. Est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce que cette place dans la fratrie a changé quelque chose pour vous? Venez discuter avec Olivier Delacroix au 39-21. Est-ce que ça change quelque chose d'être l'aîné d'une fratrie? Olivier Delacroix vous écoute sur Europe 1.
Et pour conclure cette émission, nous avons toujours avec nous Elliot qui nous parlait de la relation qu'il entretient avec sa petite sœur de 10 ans. Elliot, vous avez fait une chaîne YouTube qui porte votre nom, sur laquelle il y a une vidéo intitulée « Avoir une sœur ». Que voulez-vous raconter à travers cette vidéo ?
Ma vidéo, c'est un petit peu un résumé des choses assez drôles qui nous arrivent au quotidien quand on est dans une fratrie. Donc là, en l'occurrence, c'est avec ma sœur. Donc on a fait un petit sketch dans lequel on explique ce qui arrive au quotidien, quand on s'embête, des trucs comme ça.
Ouais.
Et voilà, donc j'ai fait un petit sketch en fait où elle a très gentiment accepté de jouer dedans. C'était maintenant il y a plus de 2 ans et voilà, elle continue à faire des vidéos avec moi parce que j'en fais régulièrement. Et voilà, donc c'est ça.
Est-ce que vous appréhendez lorsque votre sœur va devenir une adolescente, une femme, est-ce que vous appréhendez le fait qu'elle puisse se détacher un peu de vous?
Pas vraiment, parce que on est quand même assez proches, mais il y a quand même une certaine distance. D'un côté, je suis déjà loin de la maison, donc j'ai eu le temps de m'y habituer, mais c'est clair qu'au début ça fait un peu bizarre. Et puis bon, maintenant elle va rentrer au collège, donc j'ai toujours un peu peur, forcément,
ouais,
quand
ouais.
On est loin et qu'il y a un changement d'établissement, etc. Après voilà, j'ai du mal à me projeter quand même dans 10 ans, j'ai du mal à m'imaginer. Mais je pense que le vivre petit à petit, ça va pas. Je pense pas que ce soit trop difficile.
Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que vos parents vous ont éduqué différemment, elle et vous?
Je pense pas que mes parents m'ont éduqué différemment de ma sœur, mais je pense que quand on a grandi avec ma sœur, on a eu deux personnalités différentes, et mes parents ont dû adapter un peu leur éducation à comment on évoluait. Là, ma sœur était un peu plus introvertie et elle s'exprimait un peu moins. Et puis on a dû quand même la mettre en confiance et lui expliquer qu'elle peut s'exprimer et que c'est pas parce qu'elle est plus petite que son avis ne compte pas. Et voilà.
Docteur Marc Nasdier, je me retourne vers vous. On écoute Elliot qui évoque le caractère un petit peu introverti de sa sœur, donc de la différence. J'en reviens sur cette question. Est-ce qu'on éduque différemment une fille ou un garçon qui est aîné ou qui est cadet? Parlons aussi des cadets aussi, parce que est-ce que selon la nature de l'enfant, finalement, on l'éduque différemment?
Ah, il y a beaucoup de questions là en même temps.
Oui.
D'abord, je trouve ça plutôt sympa ce projet fédérateur d'Eliott avec sa sœur pour mettre des vidéos sur YouTube. Au moins, c'est quelque chose qui façonne la relation fraternelle. À l'heure de l'internet, c'est magnifique.
Mm-hmm.
Ensuite, il est évident pour moi que les modalités de l'investissement parental vis-à-vis de chaque enfant successif, qu'il soit fille ou garçon d'ailleurs, est différent. Bien sûr, quand l'aîné, on en a pas mal parlé aujourd'hui, c'est celui qui reçoit effectivement un maximum d'investissement affectif, de projection, tout ce qu'on veut. Ce qui est moins le cas, ce qui est moins moins stressant pour les enfants suivants. Moi, j'ai souvent un indicateur que j'utilise comme ça dans cette démonstration, c'est le carnet de santé, puisque on l'utilise beaucoup en pédiatrie.
Oui.
Quand c'est l'aîné, il est vraiment bien rempli de la première à la dernière page. Les vaccins sont à jour, les rendez-vous sont bien tenus, etc. Ça, c'est pour l'aîné. Pour le suivant, déjà, ça commence à être un petit peu un peu plus clairsemé, un peu plus distendu. Et puis, alors, le troisième, c'est où est passé le carnet de santé, quoi. Enfin, bon, je caricature un peu, mais vous voyez. Et ça ne veut pas dire que les parents n'aiment pas autant chacun de leurs enfants. Mais on voit bien que... l'investissement n'est pas le même,
ouais.
Ne prend pas la même forme. Alors après, ce qui est une différence entre les filles et les garçons, c'est ce qu'on a dit un petit peu au début. Forcément, quand on a eu 3 filles et qu'un garçon arrive, effectivement, il y a peut-être un bonheur supplémentaire par rapport à l'attente. Mais bon, moi, si je m'intéresse au caractère de chaque enfant, je trouve que c'est pas le sujet, le sexe.
D'accord. Merci à vous, docteur Snadjer et à Evelyne de nous avoir appelés. Merci beaucoup, Elliot, pour votre appel et votre témoignage. Merci aussi à Mélissa. C'est la fin de cette émission. Être l'aîné, c'est avoir une place particulière, celle du protecteur, du responsable. Et c'est souvent un rôle que l'on garde tout au long de sa vie. Il est important de ne pas s'oublier pour autant, tout comme accepter que son petit frère ou sa petite sœur ait sa propre place. En tant que parent, il faut accepter la personnalité de chacun de ses enfants et veiller à ne pas créer de frustration entre les uns et les autres, surtout veillez à cela. Vous pouvez bien évidemment continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, c'est un groupe qui vous est destiné, donc n'hésitez pas. Et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de l'hypersensibilité. 15 à 20% de la population serait touchée. Être toujours à fleur de peau, vivre intensément ses émotions, l'hypersensibilité est aussi belle qu'invivable. Si vous êtes quelqu'un d'hypersensible et que vous le vivez difficilement, si vous avez appris à gérer votre hypersensibilité, si un membre de votre entourage est hypersensible, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Timberge pour l'éditorial. Cette semaine, et à Boris Potinski et Cyril Pascal pour la réalisation. Ma chère Ambline, j'étais ravi de passer cette semaine avec vous.
C'est un
chers
plaisir.
Auditeurs, je vous laisse maintenant avec l'excellent Carl Zéro et ses tontons flingueurs que vous retrouvez dès 16h sur Europe 1. Et quant à moi, je vous dis à lundi.